Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ne sont que deuxièmes, mais on les aime quand même.
Oui.
C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. Après avoir évoqué Graham Bell, qui a quand même piqué l'invention du téléphone.
Le salaud, on peut le dire.
On peut le dire. Buzz Aldrin, qui a posé, qui est le deuxième, et la seule chose qui est faite, c'est de pisser dans son scaphandre.
Oui, c'est votre résumé, un peu votre biographie, un peu sommaire.
Vous,
de
Mathieu, vous vous attaquez à présent à un troisième, deuxième, plus proche de nous pour un portrait, comme d'habitude, à 99% vrai.
Oui, Stéphane, et je le précise d'emblée, ce portrait de Bill Gates, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un portrait de commande, en fait. C'est vous qui me l'avez demandé, le jour où, en feuilletant la dernière édition du magazine Forbes, vous avez constaté, non sans effroi, que vous ne figuriez pas dans le classement des 100 personnalités les plus riches du monde.
Oh my God!
Vous êtes-vous exclamé avant de choir la tête la première dans vos tagliatelles à la
truffe. Non, ouais.
Le lendemain,
mais quelle image,
le lendemain, vous me commandiez un portrait de Bill Gates pour, je vous cite, comprendre comment faire pour devenir fils à l'homme le plus riche du monde, car visiter Vaux-le-Vicomte avec les caméras de France 3, c'est sympa, mais l'acheter, ça serait quand même mieux. Ce à quoi je vous ai sèchement répondu, Stéphane, allez vous faire Bezos. Et oui, Stéphane, Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde. Il s'est fait doubler par Jeff, le fondateur d'Amazon. Il n'est plus que deuxième. Seulement 105 milliards de dollars sur son livret A, contre 112 pour Bezos. Tragique déclassement social. On les voit d'ici, les Gates déchus, dînant d'un bouillon de vermicelle Knorr dans une kitchenette So-Cook, regroupés autour du poêle depuis qu'on leur a coupé le gaz.
Oh non.
Bah non, Stéphane, je sais que ça peut vous paraître un peu chiche, mais en fait, on peut vivre avec 105 milliards. Mais c'est vrai que dans la micro-caste des milliardaires, notre Bilou est désormais un peu un loser. Et ça tombe bien car c'est l'objet de ma chronique. Vous démontrez que Bill Gates n'est, au fond, pas si différent de nous. Cette deuxième place le rend d'ailleurs instantanément plus cool et moins antipathique. En même temps, vous me direz, c'était pas difficile. Car dès son plus jeune âge, Bill Gates est ce que Françoise Dolto appellerait un enfant à haut potentiel frustré. Ce que nous appellerons plus communément un petit con. Excédé, ses parents l'emmènent voir un psy à qui Bill annonce froidement « Je suis en guerre contre mes parents et l'enjeu est de savoir qui a le pouvoir. » 9 ans. Le ton est donné. Heureusement, Bill découvre l'informatique qui est encore assez balbutiement. Et là, alors dans le maniement de l'ordinateur, vous allez voir qu'il progresse assez vite. Année 1, il apprend à jouer au Monopoly. Bon, ça ok. Année 2, il crée un programme capable de prédire le trafic routier de Seattle. On sent que le gamin va pas redoubler sa terminale. D'autant qu'à l'âge où les hormones entrent en ébullition et où, dans la moiteur de leur chambre barrée dans le sens interdit, les ados aiment à se donner secrètement du plaisir en pensant fort à Kate Moss ou bien...
Deux jeunes Grecs peu farouches.
Oui, selon les inclinaisons de Dame Nature, il n'a pas tous les goûts, eh bien, Bill Gates, lui, préfère lire l'Encyclopédie Universalis. C'est à la prestigieuse Lakeside School de Seattle que Bill crée avec son ami Paul Allen son tout premier programme informatique, un jeu de morpion.
Bon, incroyable.
On est d'accord, Stéphane, c'est nul. C'est ridicule, un jeu de morpion. Quel loser, ce Bill. Bon, 5 ans plus tard, il crée Microsoft. Ok. Mais n'a-t-on pas un peu exagéré le succès de cette entreprise qui entre en bourse en 96, faisant de notre Billou l'homme le plus riche du monde? Clairement. Car au fond, Windows de Microsoft, c'est juste une nouvelle forme de pointage en entreprise. Grâce à ce son, votre boss sait que vous êtes arrivé. Et puis grâce à celui-là, il sait que vous vous êtes cassé plus tôt pour aller vous murger à l'Happy Hour avec Corinne de la Compta. Voilà un vulgaire système de pointage. En somme, Bill est comme nous, un type qui met en pratique des idées simples. Comme nous aussi, Bill surveille ses collègues. Au début de Microsoft, il mémorise les plaques d'immatriculation de tous ses employés, puis fait des rondes sur le parking afin de checker leurs allées et venues. Type normal, quoi.
Non, oui. T'es un malade.
Et humain. Tellement humain, Stéphane. En 94, il fait un énorme doigt d'honneur au concept du no job in job et épouse Melinda French, responsable marketing chez Microsoft. Concept du no job in job qui fait néanmoins partie des valeurs centrales d'Europe 1, je le rappelle à Stéphane, dont les allusions ne sont pas toujours des plus fines avec nos stagiaires.
C'est même meilleur le lendemain.
Non, ni le lendemain, ni la veille, ni jamais,
non,
Stéphane.
Ça, c'est le veau maringot.
Non, oui. Vous réutilisez les stagiaires. Ce n'est pas de cette facette-là de Bill qu'il faut vous inspirer, mais de son altruisme. Bill, comme Michael Jackson avant lui, veut guérir le monde. Dès les années 2000, il s'éloigne peu à peu de Microsoft pour se consacrer à sa fondation Bill et Melinda Gates, à travers laquelle il devient l'un des plus gros donateurs contre la pauvreté dans le monde. Et pas que, il s'engage aussi. Vous, par exemple, vous allez faire vos courses au G20. Lui, il va au vrai G20 pour taper du poing sur la table et demander aux pays riches plus de blé pour les pauvres. Cohérent jusqu'au bout, y compris pour lui et les siens, il déclare ne vouloir laisser que 10 millions de dollars à chacun de ses enfants. L'un d'entre eux, outré, lui aurait d'ailleurs lancé
« Fais pas ton daron !»
Mais c'est comme ça, papounet a tranché, je ne leur rendrai pas service en leur laissant trop. Et c'est vrai que 10 millions de dollars, c'est pas trop, tout en restant correct quand même niveau argent de poche. Forcément, une telle réussite doublée d'une telle omniprésence dans notre vie suscite des critiques, voire des théories du complot. Certains vont même jusqu'à lui attribuer récemment l'apparition de la Covid-19. Il aurait lancé la pandémie, planifié la vaccination mondiale afin d'organiser discretos un puçage des êtres humains. Ouais Maurice, ça doit être ça, remets-moi une suze. Eh ben moi Stéphane, s'il veut me pucer, que Bill me puce. Je suis sa chose, ok. Il est que le deuxième homme le plus riche du monde. Mais à jamais, il aura mis dans notre vie cette douce mélodie qui annonce à la planète entière que c'est l'heure de l'Happy Hour. Oh, c'est l'heure de l'Happy Hour, Stéphane, bientôt qui s'approche.
Merci Mathieu, c'était à 99% vrai, il y a donc 1% de faux,
comme
si
d'habitude.
J'ai bien compté.
Oui,
alors, qu'est-ce qu'il faut?
Bah, vous n'avez évidemment jamais proposé quoi que ce soit à nos stagiaires, Stéphane.
Non, bien sûr,
mais vous ne faites des avances qu'aux membres de l'équipe qui ont un CDI. C'est pas pratique. Et elle s'applaudit. Tout à votre honneur.
Il y a pire, à mon avis.
Il n'y a rien d'autre qui est faux.
Avant, tout est vrai.
Tout est vrai. Il fliquait vraiment. Il avait mémorisé, parce qu'il avait évidemment une super mémoire, il avait mémorisé les plaques d'immatriculation de ses employés pour pouvoir voir à quelle heure ils partaient, tout ça.
Bah, merci beaucoup, c'était passionnant.
S'il nous écoute.
Si...
Bill, si tu veux faire un don à Europe 1,
oui.
On est là.
Ou à nous, direct.
À nous, directement, oui. On va lui envoyer notre RIB.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.